est-ce que vous vous êtes intéressé à cette problématique, à la problématique des Juifs et des Juifs de l'Europe de l'Est en particulier ?
Alors, c'est venu un peu par hasard. Je réponds toujours que c'est venu un peu par hasard parce que c'est vrai que quand je faisais mes études d'histoire et que je voulais écrire ma maîtrise, je pensais d'abord travailler sur le Moyen-Âge. Mais j'ai eu un cours sur l'histoire de la Russie et de la Pologne très intéressant. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, ça serait intéressant de travailler sur la Biélorussie. J'ai commencé par explorer un peu des thèmes liés à la peinture, en me disant, comme je parle pas très bien le russe, l'art, tout ça, ça sera plus simple. Et puis, j'en suis venue de cette manière-là à Chagall, puisqu'il y avait plus de sources disponibles en français sur Marc Chagall et sur ses origines vitebskoises. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon premier travail de recherche sur l'école d'art de Vitebsk et sur son premier maître qui s'appelait Pen, le fondateur, et puis aussi sur ce qui s'est passé pendant cette période révolutionnaire avec Malevitch et Lunowitz. Et évidemment, Chagall m'a amené à la communauté juive plus généralement de Biélorussie et à cette histoire des Juifs en Biélorussie. Donc après, je suis remontée dans le temps en arrière. J'ai fait ma thèse sur l'histoire des Juifs en Biélorussie au 19e siècle, enfin avant la Révolution. Et maintenant, je continue, j'explore la période qui suit et plus la période des années 20 et des années 30, avant l'Holocauste.
Vous êtes l'auteur du livre sur l'école de Vitebsk. Pouvez-vous parler de la contribution de ces représentants à l'art ?
L'idée principale de ce livre, c'est d'envisager ce qui s'est passé à Vitebsk comme une école artistique et comme un phénomène un peu global. Donc au lieu de considérer Lunowitz séparément, ce qu'a fait Chagall quand il était commissaire à Vitebsk, et puis l'école de Pen séparément, comme des épisodes ou des phénomènes séparés, moi j'ai essayé de les comprendre et de les appréhender d'une manière globale, en essayant de me poser la question de la place de l'école de Vitebsk dans la création d'un art juif moderne, puisque Pen, qui a fondé cette école en 1897, et le premier, en fait, fondateur d'une école d'art juif. Et il s'identifiait de cette manière-là. Ce qui se passe après, à l'époque révolutionnaire, sous Chagall et Malevitch, est aussi intéressant parce qu'on voit comment beaucoup de jeunes juifs, de jeunes artistes juifs, ont utilisé l'art finalement pour s'intégrer. Alors pas pour exprimer leur identité juive, mais au contraire pour s'intégrer dans le monde de l'art, dans le monde de l'art universel. Donc c'est, pour moi, l'école artistique de Vitebsk, elle condensait finalement plusieurs expériences de la modernité pour les juifs. Donc soit une recherche d'identité nationale par l'art, soit au contraire l'émancipation et une manière de réussir et d'utiliser l'art comme un moyen d'ascension sociale finalement.
Pour nos auditeurs, c'est souvent une surprise d'apprendre que des peintres qu'ils connaissent très bien en France, comme Chagall, ce fameux Chagall, et les autres artistes de l'école de Paris sont nés sur cette terre biélorusse, ouais, qui vient d'ici. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ce lien pourrait éveiller un peu plus d'intérêt pour notre pays ?
Oui, mais d'ailleurs, je pense que c'est ce qui s'est un peu produit quand il y a eu l'exposition au Centre Pompidou sur Malevitch, Lissitzky, Chagall, je crois, enfin sur l'école de Vitebsk, il y a quoi ? Il y a 2 ans. Je sais que ça fait connaître Vitebsk et qu'il y a eu plus de touristes qui sont allés à Vitebsk. Mais c'est vrai que vous avez raison, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui pourraient être faites en Biélorussie pour valoriser cet héritage et cette histoire. Parce que, alors c'est la Biélorussie, mais c'est aussi la Lituanie, enfin c'est ce qu'on appelait la Litvakie. Donc c'est des Juifs qui venaient un peu de la même région, une région qui a toujours été plus pauvre, enfin qui a toujours eu des difficultés économiques un peu plus importantes. Donc il y a toujours eu beaucoup d'émigration, ce qui explique pourquoi beaucoup de jeunes artistes, et pas seulement, ont émigré vers l'Ouest et ont contribué à l'école de Paris et tous ces mouvements artistiques. Et c'est vrai qu'en Biélorussie, on en parle assez peu, et c'est finalement assez peu valorisé. Et je trouve que le patrimoine juif en général, pas seulement les artistes, mais aussi les incroyables synagogues ou yeshivas qu'il y avait en Biélorussie sont finalement assez peu encore mises en valeur, mais ça commence. Et j'espère que ça va continuer, mais il y a un petit frémissement là, je trouve, et ça va dans le bon sens.
Qu'en pensez-vous ? Quel pas faut-il entreprendre pour justement faire valoriser ce patrimoine ?
Mais je pense que c'est à la communauté juive biélorusse ou à la jeune génération, je pense, qu'elle soit juive ou qu'elle soit biélorusse, d'ailleurs, de prendre les choses en main et d'avoir envie finalement de s'identifier à ce patrimoine ou de le connaître mieux et de le mettre en valeur. Et je pense qu'il y a des initiatives qui sont en train de naître. Il y a maintenant un centre sur la culture et l'héritage juif biélorusse qui organise beaucoup de choses, des expositions, etc. Il y a aussi beaucoup d'associations basées en Angleterre ou en France qui essayent de mettre en valeur les cimetières, ce patrimoine. Donc je pense que c'est important de conserver, mais aussi d'éduquer, et surtout d'éduquer cette nouvelle génération qui, d'après ce que je vois, a moins envie d'aller en Israël, d'émigrer, de faire leur alia, et ont plus envie de faire quelque chose ici. Et je pense que c'est très prometteur, quoi, pour le futur.
Reprenons un peu les grandes lignes de votre présentation, à laquelle nos auditeurs, malheureusement, n'ont pas la chance d'assister. Quelle place occupent les Juifs de Biélorussie dans l'histoire des Juifs de l'Europe orientale, et en quoi ces Juifs se distinguent-ils des autres Juifs de l'Europe russe ?
En résumé, pour moi, il y a plusieurs choses. Les Juifs qui vivaient dans cette région se sont identifiés à cette région de différentes manières. Ils s'y sont identifiés d'une manière religieuse, premièrement, parce que il y avait un mouvement religieux qui s'appelle le mouvement Chabad ou Lubavitch, qui est né ici, qui a été très très fort ici, et qui est vraiment une sorte d'intermédiaire entre le chassidisme qu'on rencontrait en Ukraine ou en Pologne et ce qu'on appelle le miznakdisme, donc une forme de rabbinisme traditionnel qui était dominant en Lituanie. Et pour moi, quelque part, la Biélorussie est un peu une espèce d'intermédiaire entre la Lituanie et l'Ukraine à plein d'égards, par exemple du point de vue politique également. Le sud de l'Ukraine était très dominé par le sionisme, par exemple, et la Lituanie plus par le socialisme et le mouvement bundiste, donc le mouvement socialiste ouvrier. Et c'est vrai qu'en Biélorussie, on trouve qu'il y a, finalement le berceau des mouvements sionistes-socialistes, donc de cette espèce de combinaison ou fusion des deux mouvements. C'est aussi une région qui a été intégrée bien avant les autres dans l'Empire russe, donc à la fin du XVIIIe siècle. Et ça a laissé une trace. C'est-à-dire que les Juifs biélorusses se sont sentis beaucoup plus loyaux à l'égard du tsar et de la couronne, et ont eu l'impression qu'ils avaient une espèce d'alliance avec l'État qui leur a finalement donné l'impression d'avoir un statut un petit peu particulier, et qui leur a aussi donné beaucoup plus d'appétit pour le dialogue politique et la négociation politique. Donc les Juifs biélorusses ont été très tôt très très sensibilisés au fait qu'il fallait envoyer des députations au tsar, qu'il fallait négocier, qu'il fallait être dans un dialogue comme ça politique avec les autorités. Il y a un héritage de ça à la fin du 19e siècle, quand les mouvements politiques modernes se forment, donc le socialisme, le socialiste-sioniste. On voit que la Biélorussie est vraiment un des bastions de tous ces mouvements politiques. Le résumé, le sous-titre de mon livre, enfin le sous-titre que je voulais donner à mon livre, c'était que la Biélorussie est un pays juif. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que dans les mémoires, dans la littérature, beaucoup d'écrivains originaires de cette région donnent cette impression-là, qu'en fait, ils vivent dans un royaume juif, que finalement, les goyes, les biélorusses, bah, c'est une minorité qui est pratiquement absente. Donc ça, c'est aussi très intéressant, parce que ça reflète ce sentiment de stabilité, de sécurité que beaucoup de juifs avaient ici, et qu'on peut en réalité confirmer par des données historiques diverses et variées, bon, par le fait qu'ils avaient cette alliance avec le tsar, enfin qu'ils avaient l'impression d'avoir une situation privilégiée. Aussi, c'est sans doute dû au fait qu'il y a eu moins de transformations économiques que, par exemple, en Ukraine, l'industrialisation en Biélorussie s'est faite de manière un peu plus progressive et un peu moins brutale, ce qui a donné lieu à moins de conflits sociaux, à moins de concurrence, donc à moins de pogroms également. Donc il y avait une beaucoup plus grande stabilité, qui était due aussi au fait que la Biélorussie était un peu en retard économique et était un peu moins développée. Mais ça a donné cette espèce de pays où les Juifs avaient leur place, pouvaient développer leurs institutions, leurs yeshivas, synagogues, etc., d'une manière assez sereine, sans être beaucoup dérangés par les autorités. Il y a eu beaucoup moins d'envie de créer des écoles modernes ou de moderniser la société en Biélorussie, comparé à ce qui s'est passé en Ukraine. Et finalement, cette identification ou identité juive s'est ressentie très fortement. C'était comme si c'était un bastion d'authenticité juive et d'identité juive.
Est-ce que cette coexistence, cette cohabitation des Biélorusses et des Juifs s'est reflétée d'après vous sur le caractère général, s'il y en a un, des Biélorusses ?
Alors c'est vrai qu'il y a cette idée qui traverse un peu toute l'historiographie biélorusse et un peu une conscience, une mémoire collective biélorusse que il n'y a jamais eu de pogrom en Biélorussie, que les Biélorusses sont particulièrement tolérants, qu'il y a très très peu d'antisémitisme en Biélorussie. Alors moi j'ai un peu tendance à questionner ces représentations et être un petit peu plus sceptique et à essayer de déconstruire ce qui pour moi est un mythe, parce que évidemment qu'il y a eu des pogroms en Biélorussie, il y en a eu certainement moins qu'en Ukraine, ils ont été moins violents peut-être, mais il y en a eu dès le début du XXe siècle, dès 1903, il y en a eu énormément pendant la guerre civile. Les relations étaient d'une certaine manière un peu moins tendues, sans doute également parce que le nationalisme biélorusse s'est développé de manière moins rapide et moins intense que le nationalisme ukrainien, par exemple, ou le nationalisme polonais. Donc les Juifs n'ont pas été perçus par les nationalistes biélorusses comme des ennemis ou n'ont pas eu à prendre position pour ou contre le nationalisme biélorusse. En tout cas, c'est venu beaucoup plus tard qu'en Ukraine. Mais malgré tout, il y a un fond d'antisémitisme dans le folklore, dans les croyances populaires, dans la littérature, qui est là, qui est assez inconscient et qui se perpétue, je pense, jusqu'à présent. Donc ça, évidemment, ça a marqué. C'est évident que les relations entre Juifs et Biélorusses sont différentes que les relations entre Juifs et Ukrainiens, et que les Juifs ont eu un impact sur la manière dont la Biélorussie, l'État biélorusse, la nation biélorusse s'est construite. Mais je dirais que cette idée d'une tolérance et d'un multiculturalisme absolument idyllique sont à réviser.
Dans quelle direction allez-vous continuer vos recherches ?
Alors maintenant, je m'intéresse beaucoup à la littérature pour enfants. Je trouve ça très intéressant d'étudier la littérature pour enfants en biélorusse et en yiddish dans les années 20-30, donc au moment où elle émerge, elle s'épanouit. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir justement s'il y a eu des transferts entre littérature biélorusse et yiddish, est-ce qu'ils se sont traduits ou pas. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ils se sont très peu traduits, donc il y avait toujours une domination culturelle de la Russie et de la littérature russe, qui était beaucoup plus abondamment traduite et en biélorusse et en yiddish que les deux minorités culturelles entre elles. Et je m'intéresse aussi aux illustrations de ces livres pour enfants qui sont vraiment très peu connues en comparaison de la littérature pour enfants russe, Lebedev, etc., qui est devenue une espèce d'icône de ce constructivisme et cette avant-garde russe des années 20. Mais il se passait aussi des choses très intéressantes dans la littérature pour enfants en Biélorussie soviétique. Donc là, je suis en train d'écrire un article là-dessus.
Alors, bien, merci. Je vous souhaite plein de succès dans votre travail.
Merci beaucoup.